VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre bulletin, à notre journal. On commence par les élections au Nigeria. Le chef de l'armée nigérienne a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale. Le pays tient les élections générales dans 3 jours, samedi 23 février. Les détails avec Eric Manirakiza.
Les commandants doivent agir de façon décisive contre tout crime électoral, a lancé le général Tuko Youssouf Buratai, et les exhorte à faire preuve de loyauté envers l'autorité. C'était lors d'une réunion de hauts responsables militaires hier à Abuja. Ces déclarations interviennent au moment où la tension monte après le report d'une semaine des élections qui devait avoir lieu samedi dernier. Le Congrès des progressistes au APC au pouvoir a tenu une réunion lundi, au cours de laquelle le président sortant Muhammadu Buhari a eu des mots très durs. Il avait demandé aux militaires et à la police d'être impitoyables avec ceux qui se rendraient coupables de fraude électorale. L'opposition a critiqué ces propos, les considérant comme un encouragement à la violence. L'ancien vice-président et candidat du PDP, Atiku Abubakar, a déclaré que l'avertissement de M. Buhari constituait un rappel de l'ère de la dictature et du régime militaire.
Élection au Sénégal maintenant, c'est dimanche prochain que les électeurs doivent se rendre aux urnes pour choisir leur prochain président. Poursuivant sa série sur les attentes de la population à l'approche du scrutin du 24 février, notre correspondant à Dakar, Sedina Abagaye, se concentre aujourd'hui sur l'agriculture et l'élevage.
Au Sénégal, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie. Elle représente 7,2% du produit intérieur brut. Le pays présente une série de facteurs qui le rendent attractif pour les investissements dans l'agriculture et l'agroagriculture. Pour Abdou Salam Fall, certaines contraintes minent le secteur. Ce quadragénaire souhaite que sa doléance soit prise en compte par le prochain président élu. Pour lui, le développement de l'agriculture peut impacter toute une région.
Les droits de douane sont suspendus, les droits fiscaux, certains en tout cas, sont suspendus, on ne les paye pas, de manière à ce que nos prix de revient puissent être compétitifs et qu'on puisse exporter et compétir sur le marché européen avec d'autres sociétés. 2500 travailleurs au bas mot, sans compter l'effet d'entraînement de toute l'économie locale, le transport qu'on développe, la restauration, l'habitat social et plein d'autres choses qui font que l'économie, en tout cas de la région, on l'a boosté.
L'élevage aussi occupe une place appréciable dans l'économie sénégalaise. Il constitue, comme l'agriculture, l'une des principales activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois. Mais les éleveurs sont confrontés à de nombreuses difficultés et pour Ousmane Tall, le futur président doit entreprendre des réformes.
Il faut des fermes agricoles pour une bonne prise en charge du cheptel. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Il faut que l'on se concentre sur ce qui peut nous permettre de nous développer. Il faut favoriser les échanges de races avec d'autres pays. Aider les éleveurs à produire du lait local. Il faut faire en sorte que l'herbe pour les troupeaux pousse, quelle que soit la période de l'année.
Les attentes sont nombreuses du point de vue économique, notamment dans l'agriculture et l'élevage, qui sont des filières génératrices de revenus. D'après beaucoup de Sénégalais, le président élu doit faire de ces questions une priorité et surtout faire des réformes pour améliorer la vie de la population rurale qui est souvent la plus démunie. À Dakar, Sedina Abagaye pour VOA Afrique.
Le secteur de la pêche est également un important pourvoyeur d'emplois au Sénégal. Après des années de tensions avec les gardes-côtes de la Mauritanie, les pêcheurs sénégalais peuvent à nouveau jeter leurs filets dans les eaux très poissonneuses de leurs voisins du Nord, grâce à l'entrée en vigueur d'un accord négocié au plus haut niveau entre Dakar et Nouakchott. La nouvelle convention bilatérale sur la pêche, négociée à la mi-2018 et entrée en vigueur fin janvier 2019, accorde aux Sénégalais 400 licences mauritaniennes de pêche et un quota annuel de 50 000 tonnes de poissons de pleine mer. En échange, le Sénégal doit verser à la Mauritanie 15 euros pour chaque tonne de poissons pêchés, dont 10 euros dus par les pêcheurs et 5 euros par l'État du Sénégal. Dakar a également accepté que les pirogues sénégalaises soient inspectées en Mauritanie avant de retourner à leur port d'attache et que 6% des captures soient réservées au marché mauritanien où les prix du poisson n'ont cessé de monter depuis 2015.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Changement climatique au Sahel, les chefs d'État et de gouvernement de 17 pays de la sous-région vont tenir un sommet lundi à Niamey au Niger pour valider un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars sur 12 ans. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Les 17 États de la bande sahélienne, allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique, sont concernés par ce plan très ambitieux, selon les mots du ministre nigérien de l'Environnement, Al-Mustapha Garba, qui l'a présenté hier. Ce plan d'investissement climatique est axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions des gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Son coût est estimé à 400 milliards de dollars sur la période 2018-2030. Al-Mustapha Garba a insisté pour que ce programme prioritaire soit mis en œuvre sans attendre. Le plan sera soumis aux partenaires techniques et financiers lors d'une table ronde mardi prochain à Niamey en vue de son financement. La région du Sahel, qui abrite plus de 500 millions d'habitants, est extrêmement vulnérable face au changement climatique.
Afrique centrale, politique en République démocratique du Congo, l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, est sorti de sa retraite mercredi pour resserrer les rangs de sa famille politique, qui va devenir une plateforme de gouvernement face au nouveau chef de l'État, issu de l'opposition, Félix Tshisekedi. Un mois après la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire du pays, le président Tshisekedi n'a pas encore désigné de premier ministre pour former un gouvernement. Joseph Kabila lui a bien remis le pouvoir le 24 janvier, mais le FCC, le Front commun pour le Congo de l'ex-président, a gardé la majorité au Parlement, d'après les résultats officiels des élections générales du 30 décembre. Violence en République centrafricaine, la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a décidé de juger ensemble Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, deux responsables centrafricains accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans leur pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La jonction entre les deux dossiers vise à accroître l'équité et la rapidité de la procédure en évitant le double emploi des preuves, les incohérences dans la présentation et l'évaluation des preuves, a fait savoir la chambre préliminaire de la CPI. L'objectif est aussi d'épargner aux témoins et aux victimes les conséquences indues ainsi que des dépenses inutiles, a précisé la chambre, assurant que la procédure garantit aux suspects les mêmes droits que s'ils comparaissaient individuellement. Président de la Fédération centrafricaine de football et membre du comité exécutif de la CAF, Ngaïsona a été arrêté le 12 décembre en France et estradé le mois dernier à La Haye. Il était le coordonnateur des milices anti-Balaka. Yekatom, alias colonel Rambo, était lui aussi un leader anti-Balaka. Il fait face à 14 chefs d'accusation. Leur audience de confirmation des charges débutera le 19 juin 2019.
Relations États-Unis-Soudan, en visite à Khartoum, un responsable américain membre du Conseil national de sécurité à Washington a prévenu mercredi que l'usage de la violence excessive contre les manifestants anti-gouvernementaux soudanais est inacceptable et peut menacer les discussions pour retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Plus de détails avec Raïssa Girondet.
Il est absolument inacceptable de faire usage d'une force excessive pour réprimer les manifestants, ainsi que les détentions sans charge, tout comme l'usage de la brutalité et la torture, a affirmé Cyril Sartor, directeur Afrique au Conseil national de sécurité américain en visite à Khartoum. Les États-Unis ont repris leurs relations avec le Soudan après des décennies de tensions. L'administration Donald Trump a levé en 2017 certaines sanctions, mais a maintenu le Soudan dans la liste des États soutenant le terrorisme. Le pays est depuis 2 mois le théâtre des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. La contestation s'est transformée en un mouvement réclamant la chute du président Omar el-Béchir. Les services de sécurité emploient la force pour disperser les rassemblements. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le 19 décembre. L'ONG Human Rights Watch parle de 51 morts.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, des hauts responsables américains et chinois entament ce jeudi à Washington un nouveau round de négociations de la dernière minute pour tenter de mettre fin au bras de fer commercial qui, depuis un an, énerve les marchés et crée des difficultés aux industriels. Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au trésor, Steven Mnuchin, vont négocier pendant 2 jours avec le vice-premier ministre chinois, Liu He. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.